France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Collard, j'ai 72 ans et en voilà 67 que je passe quotidiennement assis devant mon piano.
Quand on arrive rue de Madrid, Jean-Philippe Collard, selon les profils, ça a été une quête, une attente. Vous avez eu un premier échec, finalement vous y arrivez. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette rue de Madrid ?
Non, je n'ai pour écho que la satisfaction des autres. C'est-à-dire mes parents qui sont très fiers et ils ont raison parce que c'était pas gagné. Et tout l'entourage qui commence à bavarder, l'entourage social... Oh, vous avez vu, le petit, il rentre au conservatoire, c'est formidable, oh là là, quelle vie, il va devenir concertiste. Moi, j'étais pas impressionné, j'étais plutôt glacé par la non-ambiance du conservatoire, c'était une autre gare, cette grande salle du 14 rue de Madrid, cette grande entrée froide, des escaliers monumentaux, des salles de classe, on croisait personne, on disait bonjour à personne, on n'avait d'amis nulle part, c'était sinistre. Et puis Madame Van Barenzen ne faisait rien pour réchauffer l'atmosphère, parce qu'elle-même était... Elle avait rien d'empathique, quoi, elle était juste froide et...
C'était une élève de Marguerite Long.
Peut-être a-t-elle pris des cours avec Marguerite Long, c'est possible.
Elle est née en 1897. Non, mais c'est intéressant de voir aussi la perspective des choses. C'est-à-dire que c'était une certaine éducation, c'était un certain piano.
Oui, j'ai toujours considéré que c'était une très vieille dame, mais en fait, elle
franco-américaine.
Franco-américaine, oui. Ouais. Alors, jouait des concerts, elle avait donné quelques concerts, et j'y suis allé. On était un peu obligés, d'ailleurs, de suivre sa carrière.
Et ça, c'est toujours un peu impressionnant de voir son professeur
oui,
sur
oui,
scène.
Oui, c'était doublement impressionnant, parce que, Pierre-là s'habillait toujours avec des grandes robes, des machins, des trucs. C'était des concerts Lamoureux, c'était dirigé par Léon Barzin. Et elle jouait le deuxième concerto de Saint-Saëns. Alors, elle le jouait à toute volée. Elle avait une technique, mais c'était incroyable. Elle jouait comme une... C'est-à-dire, elle jouait, elle pensait à autre chose à la fois. Ses doigts, c'était des petits miracles.
Mais c'était vide derrière, en fait, c'est ça que vous nous dites.
Bon, complètement, oui. C'est-à-dire, moi, elle m'a jamais rien appris. Rien du tout. Elle se contentait de dire, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là, il faut retravailler, là, il faut... Bon. Et j'avais pas de méthode, j'avais pas de pédagogie. Quant à la musique, n'en parlons pas. Elle était toujours en train de chercher de faire des paris sur l'avenir, c'est-à-dire de dire, tiens, au concours de fin d'année, puisqu'ils ont donné ça l'année dernière et ça l'année d'avant, à tous les coups, ils vont donner ça. Donc, quand je dis ça, c'était résumé la plupart du temps à Chopin, bien entendu, c'est tellement simple. Parfois à Liszt, mais ça effrayait beaucoup. Pas une note de Mozart, Beethoven un tout petit peu. La musique française, un peu des préludes de Debussy. Un peu de musique germanique, quand même, Schumann, Mendelssohn. Oh, j'ai peu de souvenirs, à vrai dire.
Et la musique d'aujourd'hui, de l'aujourd'hui, de ces années-là ?
Non, pas question. J'aurais pu jouer à l'époque, quoi, Messiaen ? Oh, pas question. Oh non, t'avais pas aucun... Ah non. Ah, mais vous avez bien fait de me poser la question, parce que c'est sidéral. Hein. Non, mais pas un moment. Ravel, c'était probablement déjà... C'était le contemporain, quoi. Ouais. Non. Non, ça veut dire que j'ai pas été formé. ce côté-là, ça m'est passé à côté complètement.
Et les cours avec elle, vous étiez en classe, seul, avec des camarades,
il y
il y a
avait
généralement un
parfois,
assistant, une assistante du
oui,
professeur.
l'assistante assistait. Et il y avait parfois, en effet, un ou deux ou trois. On n'était pas très très nombreux. Puis on venait tous d'univers différents. On avait tous des heures de classe différentes. Il fallait aller faire ci, il fallait aller faire ça, les cours d'histoire de la musique, les trucs et les machins. On avait des horaires, on avait des plannings. Et il n'y avait pas de chaleur du tout. J'ai fait, si, je suis devenu ami avec Jacques Rouvier, qui est rentré, je crois, une année après moi, et qui arrivait de Marseille. Il était un peu désœuvré aussi. C'était un provincial comme moi. Et il habitait une pension, je me souviens, quai Branly, ou pas très loin, chez Madame Parodi. Vous vous rendez compte ce qui me revient en mémoire. Et alors.
Vous alliez voir la Tour Eiffel?
Eh bien oui, on va de près, cette fois-ci. Puis j'ai commencé à venir pote avec lui. Enfin, c'était une petite bouillotte, quoi, parce que je pouvais parler, je pouvais. Je faisais un peu de musique, on écoutait des disques, je me souviens, ensemble quand même.
C'était quoi les grands disques de l'époque, vos
Oh,
maîtres,
bah.
vos titans à vous, quand vous étiez jeune adolescent?
Bon, petit, c'était les œuvres qui m'intéressaient, pas les artistes. Alors, les œuvres, c'était déjà, j'étais côté deuxième de Rachmaninov, concerto de Grieg. Le concerto de Grieg, il était joué par Moura Limpani, je me souviens. Et le deuxième de Rachmaninov, par un pianiste hollandais, complètement disparu des radars, qui s'appelait Cor de Groot. Mais alors, je vous dis ça comme ça, je vois encore la pochette, et bon. Mais c'est vous dire, j'étais déjà un peu versé dans le romantisme qui s'étire.
Ça, c'était pas l'école tellement Barenzen.
Oh, pas du tout, non. Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'école, c'était rien.
Et
Il y
son
avait.
assistante, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ouvert sur autre
Alors, la
chose?
première, pas du tout. Mais vous avez raison de poser la question, parce que c'est là où les choses se sont déclenchées. C'est la deuxième assistante, qui s'appelait Marcel Brousse. Et Marcel Brousse, c'était une élève d'Ivnat. Et c'était une toute petite bonne femme, et votre question prend tout son sens, parce que ici, géographiquement, là où nous nous trouvons, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Pas exactement dans cet appartement, mais dans l'appartement qui est de l'autre côté de la cour. C'est là qu'elle enseignait, c'est là que nous venions la voir. Je dis nous parce qu'il y avait Jacques aussi qui était là, Jacques Rouvier. Et on venait prendre 1 heure de cours chaque semaine. Et l'immeuble était peuplé de musiciens à l'époque. Et les fenêtres étaient grandes ouvertes et on entendait un petit coup de violon, de la clarinette, il y avait un pianiste de jazz, il y avait ci, il y avait ça. Et donc vivait ici Marcel Brousse qui enseignait, et à côté, c'est-à-dire précisément ici, là où vous êtes, vivait sa nièce, Marie-Claire Trachier, qui était assistante de Pierre Jamet, le professeur de harpe au conservatoire. C'est vous dire qu'il y en avait absolument partout, donc j'ai commencé à connaître cet immeuble en 1900, je ne sais plus les dates, mais disons 60, 61, 62, et je venais régulièrement ici. Et cette femme. Elle était plus petite que moi. Elle était minuscule. Puis en plus, elle était très courbée. Elle avait de l'arthrose et dans les doigts aussi. Mais elle respirait la musique. Il y avait une espèce d'instinct, au sens propre, parce qu'elle faisait souvent comme ça. Et on sentait qu'elle captait toutes les émotions musicales contenues dans la partition qu'on jouait. Et je me souviens précisément, mais à quoi, 5-10 mètres d'ici. Avoir passé 1 heure avec elle sur le thème des études symphoniques de Schumann. Et pourquoi je m'en souviens? Et pourquoi je suis encore très ému en parlant? Ce jour-là, quelque chose s'est passé et qui m'a fait comprendre que la musique, elle était cachée à l'intérieur, qu'il s'agissait d'aller la chercher. Naturellement, il fallait avoir les outils pour le faire. Mais qu'il y avait il y avait des grandes joies qui étaient là. Il n'y avait pas seulement de la joie, il y avait de la tendresse, il y avait de la tristesse. Dans une page, une seule page. Et le quatuor à cordes, et l'attaque des sons, et la disposition des accords, et les contrechants, et le tri de la fin. Je pourrais le refaire le cours aujourd'hui. C'était lumineux. Et ça s'échappait d'une petite bonne femme de rien du tout, qui n'était pas connue, qui s'est trouvée là par hasard sur mon chemin. Et sans elle, je ne serais pas là en train de vous parler, quoi. C'était une véritable révélation. Heureusement qu'elle était là, heureusement. Aussi bien Madame Van Barrezen était asséchante, aussi bien cette petite bonne femme, merveilleuse, et m'a tout appris. Et puis l'héritage d'Ivnat et tout ça. Donc voilà, là j'ai commencé à aimer mon piano. Il était temps.
Ce piano, Jean-Philippe Collard, quand vous dites que la musique est dans la famille de votre père, dans la famille de votre mère, alors du côté de votre père, plutôt du côté religieux, avec peut-être plutôt des chantres, des organistes, etc. Du côté de votre mère, quelque chose de plus bourgeois, on imagine aussi la musique de chambre, le piano. Est-ce que très concrètement, il y avait de la musique à la maison? C'est-à-dire, il y avait votre mère qui égrenait avec ses ongles peut-être un peu trop longs du Schumann, mais est-ce qu'il y avait aussi une tradition musicale, que ce soit votre fratrie ou que ce soit des amis de la famille, avec la musique vivante dans votre salon?
Oui, il y avait tout ça. Il y avait la TSF. Je dis ça me fait passer pour un vieux croton, mais ça s'appelait la TSF, quoi. Et c'était une partie du salon, la TSF. C'était monumental. C'était un gros appareil comme ça et qui diffusait du son. Mais pour nous, c'était la magie, quoi. Et en particulier le dimanche à 17h45 ou 17h30, où il y avait les concerts des associations symphoniques qui étaient retransmis en direct depuis Paris. Et là, je commence à écouter des concerts, entendre le nom des artistes. Oui, alors là, il y a une proximité. J'ai oublié de vous dire que le dimanche, avant d'écouter le concert, nous allions à la messe, parce que c'est une famille très pratiquante, et qu'à la messe, mon père, qui tenait les orgues de ce petit village de Marais-sur-Ailly, il avait à cœur, chaque semaine, de jouer quelque chose de différent, et notamment pour la sortie, où, disait-il, évidemment, on n'entendait rien, parce que les gens chahutaient, commençaient à bavarder, tout ça, et il disait, mais bon, ça, tant pis, je joue pour le bon Dieu, puis après, on verra bien. Mais donc, le répertoire pour orgue, j'ai commencé à l'entendre et même plus qu'à l'entendre, à le cousiner un peu, parce que parfois mon père jouait des sonates en trio de Jean-Sébastien Bach et il avait du mal à faire coïncider le jeu de pédale, donc il me demandait si ça ne me dérangeait pas de venir jouer, faire la petite, excusez-moi, j'en ris encore, mais faire la petite main pour que ça prenne une certaine cohérence, quoi. Et on était bien complices là-dedans. Et parfois, il y avait également chez mon grand-père paternel, en plus dans la famille de mon père, il y avait en effet des concerts de musique de chambre le dimanche. Il y avait un déjeuner chez eux, et puis on sortait qui son violon, qui son violoncelle. Et ma grand-mère paternelle jouait du piano très bien. C'était une élève d'un pianiste qui ne dit plus rien à personne, mais qui s'appelait Paul Silva Erard. Et c'était une sommité de la pédagogie à l'époque, et ma grand-mère avait été son élève, et elle jouait plus que raisonnablement. Je ne dis pas qu'elle était virtuose, mais elle jouait des choses de très très compliquées, et c'était la pianiste amateur révélée, quoi. Donc tout ce monde-là se mettait au travail, pas du tout, au plaisir. C'était d'un niveau que j'ai oublié, donc ça devait pas être formidable. Mais j'ai entendu du Fauré, du Debussy, une esquisse, je m'en souviens, du trio de Ravel, le premier mouvement du trio de Ravel. Fallait déjà un niveau, hein, parce que c'est pas facile. Même quand c'est bien joué, ça sonne faux, comme dirait l'autre.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Philippe Collard.
Et le chant, parce que je crois que votre père était très investi, lui, dans la musique chorale, en plus de tenir les orgues.
Oui.
Petit garçon, vous chantez aussi?
Alors, moi, ça ne me concernait pas, sauf que je voyais mon père disparaître tous les lundis soirs pour aller entraîner ses chœurs. Alors, il avait fondé ça parce qu'il était musicien dans l'âme, qu'il adorait ça. Et il s'était dit, il faut apprendre à ces gens, il faut leur apprendre à chanter, il faut les réunir, on n'a rien à faire, une petite ville, on s'ennuie. Et bon. Alors, il avait fondé un chœur, les Amis de la musique d'Épernay, et qui regroupait 60, 70, 80 personnes. Et il faisait travailler assidûment des œuvres du répertoire d'oratorio tous les lundis. Mais il fallait avoir de l'abnégation parce que... Bon, le solfège, pas grand-chose. La justesse, n'en parlons pas. Quant au style, bon, c'était dur. Mais tous les lundis de l'année, c'était ça. Et la grande récompense, c'était d'adjoindre quelques musiciens qui venaient du Conservatoire de Reims, et parfois même, après, des renforts, on les appelait comme ça, de Paris, pour assurer les parties solistes et pour attaquer des grandes œuvres d'oratorio. Alors, c'est vrai que j'ai entendu mon père écouter 2500 fois la Passion sans Saint-Matthieu, Saint-Jean, les oratorios de Mendelssohn et tout ça. Il était baigné là-dedans. Il faisait bien autre chose dans sa vie professionnelle, puisqu'il vendait du champagne. Alors, ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais en tout cas, ça, tout ça, ça m'a nourri considérablement. Pour autant, je n'étais pas attaché à cette phalange, sauf en une exception où j'ai été requis pour l'exécution, je choisis le mot à dessein, du roi David d'Honegger, qui est une œuvre, entre parenthèses, d'une beauté incroyable. Et on avait besoin de renfort. Alors, pour deux parties, l'air du berger, qui intervient très vite dans l'œuvre. Le Seigneur est mon berger, je ne suis que son agneau, conduis-moi par les sentiers, au vallon des fraîches eaux. Et j'avais 11 ans, 12 ans, j'avais encore une petite voix de soprano. Alors ça, c'était ma première mission. Quand j'avais fini l'air du berger, je cavalais au fond de l'orchestre où il y avait un célestat qui m'attendait. Et naturellement, j'étais affecté à cet instrument. J'avais quelques répliques à faire, mais pas grand-chose à jouer. Mais comme par hasard, on n'entendait que ça. C'est toujours la même chose. Faut-il encore que intervenir au bon moment ?
Jean-Philippe Collard, il y a cette formation, cette jeunesse, et puis le moment où on se retrouve diplômé. Vous avez tout fait assez vite, donc vous avez juste 16 ans, vous sortez des griffes, on a l'impression, de Madame von Barenzen. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans ?
Alors, 16 ans, alors à 16 ans, je suis encore tout petit, j'ai encore une voix de petit garçon. Je n'avais pas mué, quoi. Ça s'était pas opéré, c'est venu juste après en fait, comme si j'attendais d'être délivré de madame, je sais pas, mais en tout cas, donc j'ai eu ce premier prix de conservatoire, j'allais dire un peu par hasard, non, mais enfin il faut quand même dire les choses, exceptionnellement tout le monde s'était trompé, les pronostics ont tous viré au rouge. L'œuvre imposée au concours des prix en cette année de grâce 1964, c'était Thème et variations de Gabriel Fauré. Oh, scandale! Comment se fait-il qu'on donne des œuvres aussi faciles? Qu'est-ce qui a décidé de ça? Non, non, il faut changer, tout ça. Ben non, faut pas changer, faut faire Thème et variations. Et je dois dire que là, j'ai bien joué le coup parce que ça m'allait comme un gant.
Cette musique de Fauré est particulière. Oui, je vous coupe une seconde, mais vous, elle coulait dans vos veines, en fait.
Voilà, c'est ça. Il y avait des petites, toute l'éducation qui remontait à la surface. Je savais comment manipuler mon truc, faire chanter le thème, les variations, tout ça. C'était un peu mon jardin. Et c'était pas très exigeant sur le plan technique, heureusement. Et tout le monde s'est arrêté en disant, oh là là, oh là là, oh là là. Alors le oh là là, ça se transforme en premier prix et à l'unanimité, s'il vous plaît, quand même, pas au rabais. Mais ça se termine aussi par une mise, j'allais dire, une mise sur le trottoir de la rue de Madrid immédiate, c'est-à-dire plus rien à faire. 16 ans, désœuvré. Mes parents dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? On interroge Madame von Barenzen qui dit « Oh là là, mais je le fasse encore travailler, envoyez-le-moi tous les 15 jours. » Bah oui, tous les 15 jours, c'est bien joli, mais il faut payer. Hein. Maintenant, Alors ça pose problème. Mon père va voir le directeur du conservatoire, monsieur Raymond Loucheur, à l'époque. Puis il dit, ben voilà, on a un fils sur les bras. Qu'est-ce qu'on en fait? Il est chez qui? Il est chez Madame Van Barenzen. Oui, d'accord. Mais vous pensez que c'est bien? Ben non, ça serait mieux peut-être un homme, parce que notre fils a besoin de discipline et tout. Ah, ben je comprends bien. Oui, oui. Eh bien, faites comme bon vous semble. Mais je suis assez d'accord avec ça. Donc, vous avez une idée en tête? Ben, on parle beaucoup de Pierre Sancan. Est-ce que vous recommanderiez? Ah oui, 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 on en parle beaucoup, en effet. Ah oui, ça pourrait être une bonne idée pour votre fils. Bref, mes parents prennent contact avec Pierre Sancan, qui était, à l'époque, d'ailleurs, le professeur de Michel Béroff, de Jean-Bernard Pommier, et de quelques autres, et qui défrayait la chronique. Déjà, à cette époque, c'était un ancien... Il avait succédé à Yves Nat, dont il était élève, et il avait introduit des nouvelles données dans la pédagogie, et on commençait à écouter ça un peu avec frayeur pour certains, avec beaucoup d'intérêt pour les autres. Et puis, les bruits couraient que c'était des nouvelles méthodes, qu'on jouait plus du piano comme avant, adieu l'école française, le truc, le machin. Bon, on prend contact et Pierre Sancan répond « Ah oui, mais je veux bien à condition que Madame Van Barenzen soit écartée du terrain, parce que soit vous me le confiez, mais c'est à 100%, je veux pas... Bon. » Alors là, ça a été l'épisode. Moi, je n'y étais pas, mais ça a été terrible. Mes parents sont allés voir, plutôt que d'envoyer un petit mot en disant « Merci, madame, mon fils va changer d'objectif et on a été contents de vous rencontrer ». Ils sont allés au front, puis ils lui ont dit clairement le fond de leur pensée, quoi. Et ça s'est pas très bien passé. Elle n'a pas beaucoup accepté qu'on lui dise ça en face. Et comment ? Mais je suis le meilleur... professeur de la place, votre fils a énormément à apprendre, vous pouvez pas les mettre dans les mêmes mains d'un inconnu, mais c'est complètement irresponsable. Enfin bon, bah écoutez madame, on va s'arrêter là, parce que, bref, l'affaire a été scellée, et j'ai commencé à prendre mes cours avec Pierre Sancan. Ça a été en fait assez vite, parce que il a mis en place toute une pédagogie basée sur mon squelette. Tout y est passé, la longueur de mes doigts, la taille de mes avant-bras, la manière dont je me tenais au piano. Il m'a inventé des exercices qui notaient sur des feuilles de papier à musique, comme ça, qui étaient faits pour mon anatomie. Il m'a donné un véritable guide de travail pour établir une fois pour toutes une technique pianistique dont il disait à l'époque que je n'en avais pas, et il avait raison, je n'avais pas de fondamentaux techniques, je jouais un peu en surface, comme je disais tout à l'heure. Je jouais pas pour plaire, mais il y avait quand même un côté un peu superficiel, et tout le monde trouvait ça très bien, donc moi le premier. Mais Pierre Sancan, il a dit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Quoi. Donc régime 7 heures le matin, s'il vous plaît. Et les exercices de Hanon, dans tous les tons, le machin, les tierces, les sixtes, les octaves, je vous en passe, des meilleurs. Des exercices spécialement cousus pour ma main, des tierces infaisables, des trucs, bon. Une heure et demie de technique, tous les matins. Et puis on y va, des programmes adaptés, des œuvres, et on monte en gamme, et puis je commence à avoir accès à des œuvres de très haute virtuosité, mais avec beaucoup de précautions, ils surveillent ça de très loin. Et puis ils m'engagent vers Schumann, Debussy, Ravel, les sonorités qui n'en ont pas, c'est-à-dire les vapeurs sonores, je me souviens de tout ça, après qu'il ait établi un fondamental technique, on a commencé à parler de musique, et c'est là où il s'est révélé sans doute le plus précieux des maîtres. C'était non seulement parce qu'il m'avait donné de la musculature, parfois un peu à l'excès, comme je l'ai expliqué, mais il fallait y aller d'une manière vigoureuse, il n'y avait pas le choix, j'étais frêle, j'ai grandi évidemment à ce moment-là, et peut-être a-t-il profité justement de ma transformation physique pour s'y adapter complètement. Toujours est-il que les progrès ont été mais fulgurants, quoi. C'est devenu du jour au lendemain, j'ai fait sonner mon piano, j'ai commencé à devenir maître de mon clavier. Thank you.
la grande porte de Kiev de Moussorski pour vous fermer le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Jean-Philippe Collard. Réalisation Lionel Quentin. Prise de son Georges Thau. Mixage Pierre Monteil. Attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.